Dr. Craig Kinner, Actes, conférence 6. Évangélisation et introduction aux actes. Copyright 2024 Craig Kinner et Ted Hildebrand. Il s'agit du Dr. Craig Kinner dans son enseignement sur le livre des actes. Il s'agit de la session 6, évangélisation et introduction aux actes. Vers la fin de la dernière séance, nous avons commencé à parler de l'évangélisation, du thème de l'évangélisation et des actes, et de la manière dont cela nous montre les différentes manières de le faire. Différentes personnes avaient des dons différents. Dieu a travaillé à travers les gens de différentes manières. Il y avait un évangile cohérent tout au long du livre des actes, mais il était contextualisé pour différents groupes de personnes et leur expliqué d'une manière adaptée à leur propre contexte. Et nous avons commencé à parler de la manière dont les gens attiraient l'attention sur l'évangile. Il existait certains types de réseaux disponibles au sein de leur culture, des synagogues, des forums de débat public, etc. Et nous devons également être prêts à les rechercher dans nos cultures. Eh bien, ils avaient aussi des réseaux relationnels. Les croyants ont partagé le message tout au long de leur voyage. Le livre des actes procède davantage de manière biographique. Il se concentre sur Paul, sur Pierre et sur les personnages majeurs. Néanmoins, les croyants partageaient le message tout au long de leur voyage. Nous apprenons incidemment d'une certaine manière, Actes chapitre 8 et verset 4, Actes chapitre 11 et verset 20, que tous les croyants portaient le message avec eux. Et c'est idéalement ce que nous voulons. Vous voyez cela également dans Éphésiens 4, où il est question de ministres de la parole qui équipent le reste des saints pour l'œuvre de service afin que nous soyons tous appelés au ministère. Si nous avons des églises purement axées sur le clergé, dans lesquelles les ministres, ceux que nous appelons les ministres, font tout le travail du ministère et où d'autres personnes ne nous aident pas, d'autres personnes ne sont pas impliquées, 95% du travail ne peut pas être fait parce que nous pouvons travailler aussi dur que nous le pouvons, mais nous avons besoin en fin de compte que tout le corps du Christ soit équipé pour participer à l'œuvre. Mais à part les synagogues, c'était très organique. Ils effectuaient un suivi auprès des individus. C'est très relationnel. Acte 20.20 parle de Paul parlant non seulement en public mais aussi de maison en maison. Les ménages étaient composés de parents et de clients. Par exemple, la maison de Lydia pouvait comprendre des domestiques et des ouvriers. Toutes ces choses faisaient partie du ménage. Les proches de Corneille dans Actes chapitre 10 se seraient rassemblés. En outre, en termes de ménage, il y avait ce qu'on appelle des patrons et des clients. Cela est particulièrement vrai dans la culture romaine, mais c'est également pertinent dans des endroits comme Corinthe et Philippe. Vous auriez quelqu'un d'un statut social un peu plus élevé qui inviterait des pairs, mais aussi des personnes d'un statut social un peu inférieur qui seraient des amis du genre père, mais aussi des clients socialement dépendants de cette personne. Cette personne recevrait en retour l'honneur de ces personnes à charge sociale. C'était d'autres types de réseaux relationnels. Ce que je veux dire en évoquant ce point, ce n'est pas pour dire que nous devons utiliser les mêmes réseaux que parce que nos structures familiales peuvent être différentes de celles-là. Nous pouvons avoir différents types de réseaux relationnels. Mais si l'on considère le type de réseau relationnel dont nous disposons aujourd'hui, il arrive parfois que de petits groupes se réunissent sur la base d'intérêts communs. Parfois, on appelle cela des groupes cibles où, peut-être, les personnes qui ont perdu un enfant peuvent bénéficier de groupes de soutien pour les réconforter. Tous les gens qui viendront ne seront pas nécessairement chrétiens à leur arrivée. Mais en tant qu'amis, vous pouvez partager ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il vous aide à vous en sortir. Vous pouvez également apprendre d'eux. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains brisés qui ont tous besoin de la grâce de Dieu. Mais dans ce genre de contexte, le partage est organique parce que vous partagez simplement avec d'autres êtres humains. Outre les groupes cibles, vous pouvez également simplement contacter vos amis et votre famille. C'est une façon pour le message de grandir. Maintenant, je ne voudrais pas m'arrêter là, mais je ne voudrais certainement pas ignorer les liens que nous entretenons déjà alors que nous partageons la merveilleuse découverte que nous avons trouvée en Christ. À mesure que d'autres personnes viennent à Christ, elles peuvent également partager leur réseau. Nous voyons cela se produire dans l'Église primitive. Nous voyons également le travail du cuir de Paul dans Actes chapitre 18 et verset 3. C'était une sorte de métier où l'on pouvait réellement parler avec les gens pendant que l'on faisait le travail. Mais cela nous montre aussi que Paul est devenu partie intégrante de la culture. Il a accepté une aide lorsqu'elle est devenue disponible. Même plus tard, dans ce même passage, Paul a accepté du soutien lorsque Silas et Timothée ont apporté des cadeaux de l'église de Macédoine, en particulier de Philippe. Mais Paul travaillait également au sein de la culture. Il n'était pas étranger à cela, il prêchait simplement. il en est devenu partie intégrante. En fait, il était déjà citoyen du monde gréco-romain et il est devenu encore meilleur en tant que citoyen du monde gréco-romain au sens large au fil du temps. Nous voyons également de la variété. Il atteint les femmes de Philippe grâce à leur intérêt mutuel pour le monothéisme. Le geôlier de Philippe parvient à traverser un tremblement de terre et à prêcher. Un autre domaine est celui des guérisons, ce que certains ont appelé l'évangélisation de puissance. Maintenant, j'ai parlé plutôt des signes et des prodiges et je ne vais pas en parler longuement ici, sauf en ce qui concerne le livre des actes et quelques considérations pratiques. Mais le fait n'est pas que Dieu fasse toujours tout ce que nous lui demandons. Je veux dire, nous savons tous que les premiers apôtres du premier siècle, aussi foi qu'ils aient pu avoir, aussi habilités par l'esprit qu'ils aient pu avoir, sont morts depuis longtemps. Je ne connais aucun des chrétiens respectables vraiment enthousiastes du XIXe siècle. Hudson Taylor est parti. Adoniram Judson du siècle précédent a disparu. Je veux dire, personne ne dit que tout le monde est toujours guéri et qu'ensuite nous vivons pour toujours dans ces corps. Nous attendons toujours le retour de Jésus pour récupérer les corps de résurrection. Mais le fait est que Dieu nous donne des échantillons de cette promesse future. Dans les évangiles, nous lisons la bonne nouvelle du royaume, selon laquelle un jour Dieu arrangera tout. Il va tout restaurer. Il va essuyer chaque larme de nos yeux. Ce qu'il nous donne dans le présent en sont des échantillons. Les guérisons sont temporaires.
कीट ऊपर है। जैसा कि यहां बताया गया है, यह सप्त के दिन की यात्रा के करीब है।
Si nous mourons et ressuscitons des morts, nous mourons encore si le Seigneur tarde. Si nous sommes guéris de quelque chose, eh bien, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber malades à cause de quelque chose ou en mourir plus tard. Dans ce monde, les gens meurent. Cela fait partie de la nature de ce monde et tout le monde le reconnaît en fin de compte. Cela dit, Dieu nous donne des échantillons de cette gloire future. Ce n'est pas seulement aux personnes qui en font l'expérience, mais c'est à nous tous qui en apprenons que nous apprenons que Dieu nous rassure sur sa promesse. Il ne nous a pas oubliés dans ce monde. Son pouvoir est avec nous et un jour il rendra ce monde nouveau. Cela en est un avant-goût. Eh bien, alors que je lisais le livre des Actes en tant que chrétien assez jeune, c'est en fait, je pense, au cours de ma première année d'université, que j'ai remarqué que la principale méthode pour attirer l'attention sur l'évangile dans le livre des Actes était les signes et les prodiges. Maintenant, ils ont attiré l'attention. Parfois, l'attention n'était pas toujours positive. Parfois, ils étaient persécutés, mais les gens devaient faire attention lorsqu'il y avait des signes et des prodiges. Il existait d'autres méthodes pour attirer l'attention, des forums de débat public. Ceux d'entre nous qui sont formés académiquement maintenant, vous recevez une formation académique maintenant, ou avez peut-être déjà été formés académiquement, mais plus nous apprenons, plus nous sommes capables de participer à des discussions et à des forums avec d'autres personnes et de partager notre foi. Et dialoguer avec les gens. Mais en termes d'autres moyens d'attirer l'attention des gens, encore une fois, le moyen le plus courant dans les Actes, le jour de la Pentecôte, ce qui a attiré l'attention des gens, ce sont les langues. Actes chapitre 3 et 4, ce qui a attiré l'attention des gens et attiré les foules, la guérison de l'homme qui était paralysé ou incapable de marcher. Actes chapitre 4, versets 29 et 30, il prie en fait pour que Dieu leur donne de l'audace en étendant sa main pour guérir et que des signes et des prodiges soient accomplis au nom de son saint serviteur Jésus. Dans Actes chapitre 14 et verset 3, Dieu confirmait son message par des signes et des prodiges. Ce n'est donc pas surprenant. Quand j'étais un jeune chrétien, j'ai remarqué cela. Et j'ai aussi lu un livre publié par University Press, un bon livre évangélique sur le partage de votre foi, comment donner votre foi. Et dans ce livre, il est dit, vous pouvez prier pour les gens. Les gens l'apprécient généralement. Ils aiment que vous priez pour eux s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Donc, vous pouvez simplement proposer. Ils ne sont généralement pas offensés si rien ne se passe. Je veux dire, vous ne pouvez pas y arriver, mais si cela arrive, cela attire généralement leur attention. Donc, je travaillais dans certains complexes d'appartements, des complexes d'appartements pendant la pandémie. Et l'été, on arrachait les mauvaises herbes, on ponçait les murs, on peignait et on y effectuait des tâches très rudimentaires, balayer. Quand une des personnes passait, je disais qu'ils étaient âgés, mais comme je me rapproche moi-même de cet âge, je n'aime pas utiliser cette expression. Mais de toute façon, ils étaient beaucoup plus âgés que moi, principalement des retraités. Il y avait une femme qui est passée et elle se plaignait de quelque chose. J'ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle a dit, bien sûr. J'ai prié pour elle, mais rien ne s'est produit. Mais une autre personne est venue, Mabel Cooper. Et elle a dit, oh, quelque chose ne va pas avec mon genou. Ça va vraiment mal et le médecin ne peut rien faire pour mon genou. Alors, j'ai prié pour son genou sur place. Et elle est revenue quelques jours plus tard et elle a dit, Craig, tu vas bien. Mon genou va mieux depuis que vous avez prié pour lui. Maintenant, je dois faire travailler mes poumons parce que j'ai craché du sang et le médecin pense que j'ai un cancer du poumon. J'ai dit, d'accord, je viendrai pendant ma pause déjeuner et je prierai pour toi. Mais pendant ce temps-là, j'avais lavé les murs de son voisin d'un accent grave côté qui venait de mourir d'un cancer du poumon et qui était un fumeur invétéré. Je lui ai montré le seau de rinçage, il ressemblait à de la gomme laque. J'ai dit, tu sais, c'est probablement à ça que ressemblent tes poumons maintenant. Il faut vraiment arrêter de fumer. Elle a dit, vous savez, mon médecin dit ça aussi. En tout cas, je suis passé chez elle pendant la pause déjeuner et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Mais que Dieu vous guérisse ou non, un jour vous allez mourir et vous devez être prêt à le rencontrer. Alors, elle a prié avec moi pour accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et puis j'ai prié pour qu'elle soit guérie. Elle m'a dit qu'après cela, elle n'avait plus craché de sang et que le médecin avait décidé qu'elle n'avait pas de cancer du poumon après tout. Elle a vécu encore de très nombreuses années. C'était exactement comme un jeune chrétien. Je n'étais pas officiellement ministre ou quoi que ce soit. Ainsi, nous pouvons tous prier. Certaines personnes seront plus douées que d'autres dans ce domaine, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire pour aider les gens et cela peut également attirer leur attention sur l'Évangile. Eh bien, dans les diapositives à venir, nous allons examiner Acte 1, 8, où il est question de pouvoir et nous pourrons parler des signes menant à des conversions dans l'histoire. Et aujourd'hui, je ne le ferai probablement pas puisque je l'ai déjà fait. Mais il suffit de regarder quelques exemples dans les Actes. Acte 1.8, vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit viendra. Que veut dire Luc par pouvoir? Dans l'Évangile de Luc, non exclusivement, mais le plus souvent, le pouvoir est associé au fait de chasser les démons ou de guérir. 436, 517, 619, 846 et 9 à 1. Encore une fois, dans le livre des Actes, Acte 3.12. Ce n'est pas seulement grâce à la puissance ou à la sainteté que cet homme a été guéri. C'était au nom de Jésus, par sa puissance. Au chapitre 6 et au verset 8, Étienne était plein de grâce et de puissance et faisait donc des merveilles et des signes. Au chapitre 10 et au verset 38, Jésus, oint de l'esprit et de la puissance, guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Ainsi, lorsque nous parlons de puissance dans Actes 1, 8, je pense que nous devrions penser non seulement à la puissance du témoignage en général, mais aussi au fait que Dieu confirmera souvent notre témoignage en répondant aux prières et en faisant des choses qui attireront vraiment l'attention des gens. C'est la puissance de l'Esprit et l'Esprit était largement associé dans les cercles juifs à l'autonomisation prophétique. Nous en reparlerons plus tard. Voici juste une photo de ma femme et moi devant l'appartement de Mabel Cooper où j'ai prié pour elle. Je pense qu'à ce stade, je vais aller plus loin car j'ai déjà parlé des signes. En fait, j'en ai quelques-uns différents ici, mais je n'ai pas besoin de tous les faire. Donc attirer l'attention à travers des signes. Paul a peut-être grandi dans ce domaine grâce à son ministère. Nous lisons dans Actes 13 où Sergius Paulus est témoin d'Elema Bargesi est devenu aveugle. Cela attire son attention. Et Actes 14 dit que des signes et des prodiges étaient accomplis par les mains des apôtres Barnabas et Paul. Mais quand vous arrivez à Actes 19, c'est le genre d'échelle que vous aviez dans l'église de Jérusalem. Je veux dire, il a grandi là-dedans. Et je connais des cas où cela s'est produit aujourd'hui aussi, où cela a commencé modestement où parfois une personne priait pour les gens pendant un an ou deux et rien ne se passait, mais ils étaient sûrs qu'ils étaient censés le faire. Et cela peut devenir très décourageant. Normalement, même si vous ne priez pas pour les gens, parfois ils vont mieux, n'est-ce pas? Donc, parce que Dieu a souvent construit nos corps pour qu'ils s'améliorent. C'est aussi un don de Dieu. Mais de toute façon, au bout d'un an ou deux, d'un coup en une semaine, beaucoup de gens ont commencé à guérir et à partir de là, ça a commencé à se propager. Je pense que pour nous faire savoir, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et quand Dieu a décidé de l'allumer, c'était prêt. Nous ne nous en attribuons donc pas le mérite. Le mérite appartient au nom de Jésus. C'est lui qui fait le travail à travers nous. Mais Paul a peut-être grandi dans ce domaine au cours de son ministère et Paul a reconnu que l'attention était portée sur l'Évangile et non sur lui-même. Autre caractéristique de l'évangélisation dans l'évangile, parfois Dieu arrange simplement les choses. Il met juste les choses en place. Nous ne nous y attendons pas. Vous avez une vision parallèle. Cornelius et Peter ont tous deux ces visions. Pierre n'aurait pas été disponible pour aller voir Corneille avant cela, mais Dieu l'envoie clairement. Alors, il s'en va et Dieu est si désireux de déverser l'esprit. Dieu n'attend même pas que Pierre termine son sermon mais interrompt son sermon et déverse son esprit sur ses païens rassemblés. Un autre cas évident est celui où Philippe est envoyé quelque part dans des circonstances très inhabituelles, mais il y arrive et trouve un fonctionnaire africain en train de lire la Bible. Et le responsable africain lui demande, en lisant Isaïe chapitre 53 sur le serviteur souffrant, « De qui parle-t-il ? » Eh bien, parlons d'une configuration. Je veux dire, Philippe peut lui prêcher et Dieu vient de créer la situation. Je me souviens d'une fois où j'étais un jeune pasteur et où nous allions faire un pique-nique à l'église. Nous étions juste en train de nous réunir et je suis toujours heureux de partager l'évangile, mais ce n'était pas ce que j'avais en tête à ce moment-là. Nous étions juste en train de nous préparer. Jusqu'à présent, nous n'étions que deux et nous étions juste en train de rassembler certaines choses. Et une jeune femme s'est approchée de moi et m'a dit, « Est-ce un pique-nique à l'église ?» J'ai dit, « Ouais. » Elle a dit, « Pouvez-vous me dire comment être sauvé ?» J'ai dit, « Ouais. » Elle a dit, « Attends là. » Mon frère veut aussi savoir comment être sauvé. C'était un coup monté. Je veux dire, le Seigneur a mis cela en place. Nous n'avons pas vraiment eu à faire de travaux dans ce cas. D'autres cas sont plus difficiles, mais nous voulons être obéissants dans toutes les situations. Notre façon de vivre est aussi une question d'évangélisation. Vous savez, à la fin du sermon de Pierre, 3000 personnes ont reçu Christ dans Actes 2.41. Mais si vous regardez la structure littéraire de ce dernier paragraphe du chapitre 2 des Actes, il se termine également par une évangélisation efficace d'une autre manière. Il parle de l'Église après que ces 3000 personnes se soient converties, qu'elles partagent le culte, qu'elles partagent les repas, qu'elles prient les unes avec les autres. Ils sont même si radicaux qu'ils partagent leurs biens. Et au verset 47, le Seigneur leur accordait sa faveur et ajoutait quotidiennement à leur nombre ceux qui étaient sauvés. En d'autres termes, ce qui s'est passé avec Pierre était une manière d'évangéliser. Dieu a établi un signe dramatique, et a attiré l'attention de beaucoup de gens. Pierre a eu l'occasion de prêcher. Mais au verset 47, les gens voyaient comment vivaient les chrétiens et c'est ce qui les attirait à la foi. Et ils continuaient à s'ajouter à l'Église. Vous voyez quelque chose de similaire ailleurs dans le Nouveau Testament. Je veux dire, par exemple, ce que Jésus dit dans Jean 13, 34 et 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il appelle cela un nouveau commandement. Ce n'était pas nouveau parce que c'était de l'amour. Lévitique 19, verset 18 parle de s'aimer les uns les autres comme soi-même, mais c'était nouveau parce que c'était une nouvelle norme. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est ainsi que chacun saura que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés, si nous vivons de telle manière que les gens peuvent voir le cœur de Jésus, alors ils sont exposés à Jésus à travers cela. Et cela attirera leur attention. C'est aussi un signe. Dans Jean 17, 23, il prie pour l'unité de ses disciples afin que le monde sache, dit Jésus, que toi, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Maintenant, en parlant d'unité, les gens débattent de l'unité des églises. Nous ne sommes pas obligés d'appartenir tous à la même église. Nous n'avons même pas besoin de croire tous exactement la même chose. Nous sommes frères et sœurs si nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et si nous le suivons. Mais dans le cas de l'unité, c'est quand nous nous aimons les uns les autres. L'unité, c'est lorsque nous travaillons ensemble, que nous servons ensemble pour l'Évangile. Eh bien, voici différentes manières d'attirer l'attention sur l'Évangile. Maintenant, où aller? Eh bien, sur ce point, nous devons équilibrer divers facteurs. Mais le facteur le plus important, bien sûr, est de savoir où Dieu nous conduit. Je veux dire, si Dieu te guide, alors tu ferais mieux d'y aller. Et cela risque d'être difficile. Cela peut prendre des années pour voir des fruits, ou vous pourriez les voir rapidement. En fait, généralement, Dieu nous fait passer des épreuves avant de nous donner trop de fruits afin que nous ne soyons pas enflés dans notre tête. Mais là où Dieu nous conduit, cela peut parfois se produire juste en un instant. Nous devrons peut-être y aller à tout moment. Vous voyez cela dans Actes chapitre 8 et verset 29, où l'Esprit dit à Philippe, « Va, rejoins-toi à ce char. » Et il partage le Christ avec le fonctionnaire de la cour africaine. Ou au chapitre 10 et verset 19, où l'Esprit dit à Pierre, « Il y a des hommes qui sont venus te voir. Vous devez les accompagner. Je les ai envoyés à cause de la vision que Corneille avait reçue. » Eh bien, parfois, les conseils de l'Esprit sont négatifs. Par exemple, dans Actes chapitre 16 et verset 7, ce n'était pas si difficile lorsque Paul retraçait les étapes de l'endroit où il avait évangélisé avec Barnabas, mais il n'avait pas vraiment dirigé la mission auparavant. Et maintenant il va au-delà de ces églises qu'ils ont déjà fondées. Et il semble que les choses s'effondrent. L'Esprit dit non lorsqu'il veut aller en Bithynie. L'Esprit dit non lorsqu'il veut aller en Asie, Asie signifiant la province romaine d'Asie et l'Asie mineure occidentale. Maintenant, ce nom était un nom temporaire dans Actes 16.6. Plus tard, finit-il par dire qu'il y a un grand réveil en Asie mineure, mais il n'était pas encore prêt. Il a peut-être tout gâché. Alors, l'Esprit a dit, non, il n'y est pas allé. Ensuite, ils arrivent à Troas, qui est un endroit naturel où aller. Cela représente environ 100 000 personnes. C'est une ville très stratégique, mais il arrive à Troas et il a une vision nocturne. Et la vision est celle de quelqu'un de Macédoine qui dit, venez en Macédoine et aidez-nous. Lui et les autres, y compris Luc, se réunissent et interprètent cela. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Cela doit vouloir dire que nous sommes censés aller en Macédoine. Et ce n'était pas une vision de l'apparition de Jésus. Ce n'était rien de plus explicite que ça. Et ils arrivent en Macédoine, ils sont battus et souffrent tout au long de leur chemin à travers la Macédoine. Philippe est difficile. Thessalonique est difficile. Ils sont même chassés de Béréa. Ils doivent persévérer en fonction des conseils qu'ils ont reçus. Mais il s'agissait de quelques conseils, et certains conseils valent mieux que pas de conseils. Alors ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Parfois, nous pouvons penser que Dieu nous conduit vers un certain endroit pour une seule raison. Dieu a peut-être une raison différente en tête, mais si nous faisons de notre mieux pour suivre sa direction, Dieu est capable d'ordonner nos pas. Notre travail consiste simplement à faire de notre mieux. Parfois, c'était une affaire de portes ouvertes. Ils quittèrent la Macédoine pour l'Achaïe. En fait, Paul fut chassé de Macédoine et dut se rendre en Achaïe. Mais il y avait des portes ouvertes en Achaïe et il put y exercer son ministère. Il ne mentionne aucune révélation. Paul en avait peut-être un, mais fondamentalement, ce que nous savons, c'est que Paul a dû se rendre en Achaïe. Il a été envoyé là-bas pour assurer sa sécurité. Là-bas, les gens étaient un peu plus ouverts d'esprit. Et parfois, la volonté de Dieu, sa direction, nous conduit à la souffrance. Actes chapitre 21, il y a des avertissements prophétiques. C'est ce à quoi vous allez faire face si vous allez à Jérusalem. Et les amis de Paul disaient, n'y allez pas parce que nous savons ce que dit l'Esprit. Et Paul a dit que j'étais prêt à mourir si j'en avais besoin. Paul connaissait la volonté de Dieu pour lui. Et donc, vous savez, même si ses frères et sœurs l'aimaient et qu'ils entendaient une partie de ce que Dieu disait, c'était formidable pour Paul d'être prévenu, mais Paul savait qu'il était censé partir. Et finalement, ils renoncèrent et dirent, que la volonté du Seigneur soit faite. Ce n'est pas parce que Dieu vous conduit vers quelque chose que vous n'aurez pas de difficulté avec cela. Cela ne veut pas dire que vous ne souffrirez pas. En fait, généralement, lorsque nous nous engageons dans quelque chose d'innovant, il y a des difficultés. Vous n'êtes pas obligé de le provoquer. Vous n'êtes pas obligé de dire, s'il vous plaît, donnez-moi un peu ou ne nous faites pas tester. Mais si cela se produit, et cela se produit généralement, Dieu l'utilise pour nous enseigner une plus grande dépendance à son égard et il nous rend plus forts. Et dans les endroits où Paul exerçait son ministère, comme à Thessalonique et à Philippe, ils virent ce qu'il traversait. Et il a pu faire appel à cela et dire, vous savez ce que cela coûte de suivre Jésus. Et c'est grâce à cela qu'ils ont pu persévérer davantage. Grâce à son voyage à Jérusalem, il a pu prêcher l'évangile dans le temple. Il a pu prêcher l'évangile à Rome alors qu'il était prisonnier. Il avait prévu d'aller à Rome de toute façon, mais en tant que prisonnier, il a pu prêcher à des gens à qui il n'aurait pas eu l'occasion de prêcher autrement, des membres de la garde prétorienne, et même présenter l'évangile devant la cour de Néron. Néron n'était probablement pas là la première fois, mais pour présenter l'évangile devant la cour royale. Par contre, quand nous n'avons pas d'orientation particulière, la commission reste. Actes chapitre 1 et verset 8. Dans Actes chapitre 13 et verset 2, ils savaient déjà qu'ils avaient été envoyés, mais ils n'étaient pas encore partis parce que ce n'était pas encore le moment. Mais maintenant, ils ont été envoyés. Cela ne signifie donc pas toujours que nous allons déménager quelque part. Certains des premiers chrétiens ont dû déménager parce qu'ils étaient persécutés et Dieu utilisait cela pour répandre l'évangile. Mais parfois, c'est là que vous êtes. Vous le partagez simplement avec les gens autour de vous et vous le partagez naturellement parce que c'est ce qui compte pour vous. C'est ce qui vous passionne. Mais même quand nous n'avons pas de direction particulière ou de commission particulière, nous avons la commission générale, la grande commission. Nous pouvons commencer par la connexion que Dieu fournit. Eh bien, où a commencé le 12? Ils ont commencé à Jérusalem où ils se trouvaient à ce moment-là. Ce n'est pas d'où ils venaient, mais c'est là qu'ils étaient. En fait, ils sont probablement restés là un peu trop longtemps, mais le Seigneur avait sa manière de s'assurer que l'Évangile se propage au-delà de Jérusalem. Il y avait des chrétiens juifs de la diaspora, c'est-à-dire des croyants juifs venus de l'extérieur de la Judée, de l'extérieur de Jérusalem, qui s'étaient installés à Jérusalem. Actes 11, 20 dit qu'ils étaient des croyants de Phénicie, de Chypre et d'Antioche. Ils ont commencé à partager l'Évangile avec des membres de leurs propres groupes ethniques à Antioche. Cela pourrait être ce que certains appellent l'évangélisation de l'amitié. Ils étaient capables de faire de l'évangélisation relationnelle avec des personnes avec lesquelles ils avaient des intérêts et des facteurs communs. Finalement, nous pouvons également le partager avec les Grecs. Ils ont commencé à faire la transition de cette façon, ce qui était beaucoup plus difficile pour quelqu'un comme Peter. Ces gens étaient déjà biculturels. Ils avaient déjà des liens culturels qui allaient au-delà du type de lien culturel qu'avaient Peter et les douze. Barnabas et Saul dans Actes 13 partent pour Chypre. Eh bien, pourquoi Chypre? C'était probablement l'endroit le plus proche où naviguer, mais devinez d'où venait Barnabas? Je veux dire, Barnabas avait des relations à Chypre, donc c'était logique. Paul exerce son ministère en Cilicie. Actes n'explore pas cela en détail, mais Actes 9.30 dit qu'il est allé en Cilicie ainsi qu'en Syrie et qu'il avait déjà été en Syrie. Et Galates 1.21 dit qu'il exerça son ministère en Syrie et en Cilicie. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait des liens. Certaines d'entre elles n'ont peut-être pas très bien fonctionné puisqu'il devra apparemment y faire attention plus tard. Mais de toute façon, dans Actes 13, pourquoi se rendent-ils à Antioche de Pisidie? Il y avait des endroits plus peuplés sur la côte. Antioche pisidienne comptait peut-être 5000 citoyens romains et autres résidents. Et certaines villes de la côte comptaient environ 100 000 habitants. Pourquoi aller à Antioche pisidienne? Eh bien, dans ce cas, les actes ne nous le disent pas, mais il peut y avoir une raison suggérée par l'archéologie. Bien sûr, si vous naviguez vers le nord depuis Paphos, vous arrivez dans la zone côtière tandis que si vous allez à l'intérieur des terres, vous allez à Antioche pisidienne. Mais il y a d'autres choses sur la côte de Lysie qui étaient plus peuplées. Pourquoi aller à Antioche pisidienne? Nous savons par l'archéologie que les Sergipoliers, la famille dont faisait partie Sergius Paulus, le gouverneur de Chypre, les Sergipoliers possédaient d'immenses domaines dans cette région, au nord-est d'Antioche pisidienne et au nord des Lacanium. Et donc probablement ils y allaient en partie parce qu'ils avaient des relations. Ils avaient peut-être reçu une lettre d'introduction de Sergius Paulus. Or, Paul se rendait surtout là où il était spécifiquement équipé. Parfois, j'ai eu du mal parce que j'aimais servir les gens individuellement dans la rue, mais le Seigneur m'a donné des dons académiques et il y avait des endroits où je pouvais aller grâce à ces dons où d'autres personnes ne pouvaient pas aller. Et donc, j'ai réalisé, d'accord, même si j'aime faire d'autres choses aussi, je dois aller là où je suis équipé de manière distinctive. Paul se rendait surtout dans les zones urbaines. À Antioche, où il exerce son ministère au début d'Actes 13 et à la fin du chapitre 11 d'Actes, Paul était particulièrement équipé pour cela. Il est spécialement équipé pour certains endroits, mais Paul a été instruit. C'était un citoyen romain. Il y avait des endroits où il pouvait exercer son ministère d'une manière spéciale, comme Rome, parce qu'il était citoyen romain, où d'autres personnes n'auraient pas pu être entendues aussi facilement. Ou encore à Corinthe ou à Philippe qui étaient des colonies romaines, ou encore à Antioche de Pisidie qui était une colonie romaine. C'était des endroits où Paul avait des incursions particulières. Éphèse lui a donné un autre type d'avancée spéciale en raison de son éducation et de son expérience. Paul a peut-être réalisé une partie de cela quand, en fait, après avoir été battu à Philippe, le geôlier philippien a peut-être dit, vous savez, une fois qu'il a découvert qu'ils sont des citoyens romains, vous savez, c'est en fait respecté ici. En fait, ils prennent cela au sérieux ici. En fait, ils prennent au sérieux la loi selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à battre les citoyens romains ici. Le fait que Paul et Silas soient citoyens romains est alors devenu un gros problème dans les autres endroits où ils allaient. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Paul passe 18 mois à Corinthe. Ce que j'aime penser, bien sûr, c'est que la première chose est la direction de Dieu. Mais une autre question à laquelle j'aime réfléchir est, où l'évangile ne sera-t-il pas prêché si je ne le fais pas? Si je n'ai pas d'autres conseils précis, si je dois faire un choix entre deux choses qui s'offrent à moi, je veux faire celle qui ne se fera pas si je ne le fais pas. Quelqu'un d'autre peut venir ici. Leur ministère est peut-être plus grand. Louez Dieu pour leur ministère. Mais si nous allons tous les deux ici et que nous divisons le ministère et que cela n'arrive pas, ce n'est pas bien. Donc, si c'est important, alors c'est un des facteurs à prendre en compte. Un autre facteur à prendre en compte sont les centres de diffusion de la culture populaire. Antioche était multiculturelle. Ils avaient là-bas une équipe de direction multiculturelle parce qu'elle était multiculturelle. Et la nouvelle se répand souvent depuis les villes et depuis ces espaces multiculturels. Paul est capable de le faire à Éphèse. Il est dit que pendant qu'il était à Éphèse dans Actes chapitre 19 versets 10, 17 et 20, la parole du Seigneur s'est répandue de là dans toute la province de l'Asie romaine, Éphèse étant la ville la plus importante de l'Asie romaine. Les gens allaient et venaient d'Éphèse tout le temps. Si vous atteignez les gens là-bas, vous toucheriez des gens d'autres groupes ethniques et des régions environnantes et cela se propagerait plus rapidement. Vous pouvez penser que dans mon pays, vous pouvez penser à des campus où le renouvellement d'une génération est souvent de 4 ans. Certaines personnes prennent plus de temps, mais 4 ans. Pensez aux étudiants internationaux, dont certains pourront emporter avec eux la bonne nouvelle, tout comme le fonctionnaire de la justice africaine a pu l'emporter avec lui. Dans votre contexte, cela peut être différent, mais où que vous soyez, dans des lieux multiculturels, des endroits où vous pouvez atteindre des groupes de personnes qui peuvent y être joignables, vous n'aurez peut-être pas besoin de parcourir 500 ou 700 kilomètres ou d'essayer de parcourir tout un tas de kilomètres. Différents lieux. Dieu a peut-être amené le peuple à vous. Et Antioche était un endroit comme celui-là et Paul était prêt à tendre la main aux gens de là-bas. Le but de Paul au sein de l'Empire était Rome. Vous avez peut-être entendu le dicton selon lequel tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, c'est parce que Rome a construit les routes, mais c'était vrai. Les gens allaient et venaient. Paul, avant de se rendre à Rome, Romains 16 montre qu'il connaissait beaucoup de gens à Rome. Pourquoi? Parce que les gens allaient et venaient de Rome tout le temps. Si vous atteignez le cœur de l'Empire, si vous atteignez Rome, le message serait très bien diffusé à partir de là. Aujourd'hui, Internet en est peut-être un exemple. C'est bien d'avoir quelque chose qui soit orienté vers la congrégation afin que vous puissiez faire des disciples, mais Internet est un endroit où beaucoup de gens se rassemblent intellectuellement. Peut-être qu'un jour le réseau électrique tombera en panne et ce ne sera pas vrai, mais pour le moment, c'est un endroit où nous avons beaucoup d'opportunités. Assurez-vous simplement de savoir ce que vous faites. Il y a des chrétiens qui disent certaines choses sur Internet. Comment devrais-je dire cela? J'étais athée avant ma conversion et j'aime donc les athées. J'ai une certaine compréhension des athées, mais certains des nouveaux athées ne font que débiter des bêtises sur Internet. Ils n'ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Ils récupèrent d'autres choses sur Internet. Parfois, ils s'approprient des choses d'intellectuels qui sont des intellectuels dans un domaine, mais ils n'ont pas la moindre connaissance de la philosophie ou des domaines dans lesquels ils abondent. Mais parfois, il y a des chrétiens qui font exactement la même chose, et c'est embarrassant. Je connais des athées qui sont gênés par certains des nouveaux athées sur Internet, et je connais certains d'entre nous, chrétiens, qui sont gênés par certaines des choses que certains chrétiens font sur Internet. Soyez informés lorsque vous parlez de choses, mais surtout, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour car nous sommes appelés à aimer notre prochain quoi qu'il arrive. En termes de sensibilisation, de logistique. Eh bien, nous avons beaucoup de matériel que nous pouvons apprendre sur la logistique et les actes, même si une partie est principalement destinée à cette culture, mais cela nous donne des modèles sur la pertinence de nos propres cultures. Par exemple, ils se rencontraient dans des maisons. Ils ne disposaient généralement pas de bâtiments publics. Ils pourraient se rencontrer dans le temple de Jérusalem, mais vous n'allez pas vous rencontrer dans le temple d'Aphrodite à Chypre ou dans le temple d'Artémie à Éphèse ou près d'Éphèse ou dans le Parthénon, le temple d'Athéna à Athènes. Donc, les gens se réunissaient, surtout dans les maisons. C'était un problème de logistique. C'est ce qui était disponible pendant les 3 premiers siècles. C'est principalement là que l'Église se réunissait. Ce n'était pas qu'ils étaient contre une rencontre ailleurs. Je veux dire, Paul parlait dans les synagogues et ils utilisaient des maisons plus grandes lorsqu'ils avaient des maisons plus grandes disponibles. Et à Jérusalem, ils avaient des réunions à domicile et des réunions plus importantes. Mais les maisons sont économiquement viables. Les foyers sont également plus faciles en cas de persécution. Les maisons sont plus proches d'où les gens peuvent se rendre s'ils ont besoin de marcher pour se rendre dans les quartiers. Bien sûr, à l'époque, ils n'avaient pas de voiture, mais ils utilisaient ce qu'ils avaient et ce qu'ils avaient était efficace. En fait, dans les foyers, ils disposaient de moyens permettant de former les gens de manière plus intime. Le ministère d'équipe était un autre facteur. Dans Actes chapitre 13 et ailleurs, vous voyez que vous avez une direction d'équipe dans Actes chapitre 13, les deux premiers versets et Barnabas et Saul sont envoyés en équipe de mission et ils emmènent Marc avec eux. Plus tard, lorsque Paul accompagne Silas, il recrute Timothée pour l'accompagner, puis Luc les rejoint. Plus loin dans Actes chapitre 20, Paul a un grand nombre de personnes qu'il a encadrées, des représentants de différentes villes qu'il accompagne à Jérusalem pour porter l'offrande. Bien que Luc ne mentionne pas beaucoup l'offrande, juste une fois. Mais en tout cas, un ministère d'équipe. Maintenant, je suis introverti et je sors souvent seul parce que, tout comme Paul à Athènes, s'il n'y a personne avec vous, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas partager l'évangile. Mais délibérément, il est généralement préférable de sortir avec quelqu'un. J'ai probablement été battu plus souvent que nécessaire parce que je sortais seul dans des endroits parfois dangereux. Mais un autre problème logistique que nous constatons dans la croissance de l'Église est celui de sa structure de direction. Ils avaient des anciens ou des surveillants. Or, ces structures de leadership ont été empruntées à la culture plus large. L'Israël antique avait des anciens qui dirigeaient les affaires du village local et des anciens supervisaient les synagogues. Le titre de surveillant a été utilisé dans certains contextes de leadership grec et son équivalent hébreu, Mabachar, est également utilisé, si je le prononce correctement, dans les manuscrits de la Mer Morte pour les surveillants de la communauté de Qumran. Parfois, il y a quelque chose de déjà disponible dans la culture. Il n'est pas nécessaire que ce soit complètement différent. Si cela fonctionne, vous pouvez l'adapter, à condition qu'il n'y ait rien de mal à cela. Et ils ont repris certaines des structures de leadership au sein de la culture. Paul voulait qu'il y ait des dirigeants dans les congrégations locales pour leur donner de la stabilité. Ainsi, dans Actes 14, 23, lorsqu'ils parcourent ces églises, ils viennent juste de démarrer ces églises. Ce n'est pas comme si ces anciens étaient des chrétiens expérimentés, mais ils sont les meilleurs qu'ils aient. Et donc, ils les ont chargés pour le moment d'aider à superviser les choses. Vous devez travailler avec ce que vous avez. Il y a aussi un autre problème logistique, le quatrième que je mentionne, c'est qu'ils étaient prêts à faire confiance à ce que Dieu faisait. C'est pourquoi ils pourraient déléguer. C'est pourquoi les douze étaient prêts à déléguer aux sept dans Actes chapitre 6, suivant l'exemple de Moïse dans Exode 18 et Deutéronome 34, déléguant aux 70 anciens ou déléguant à Josué, imposant les mains à Josué. Et puis l'Esprit est venu sur lui, tout comme vous l'avez fait avec les sept dans Actes chapitre 6. Déléguer signifie que nous faisons confiance à ce que Dieu fait. Nous savons maintenant, ailleurs dans le Nouveau Testament, que parfois cela se passe mal. Vous faites de votre mieux pour vous assurer de déléguer uniquement à des personnes très responsables. Et ils l'ont fait dans Actes 6, mais parfois les gens changent ou quoi que ce soit, mais nous faisons de notre mieux. Paul a de nouveau installé les dirigeants dans Actes 14.23. Plus loin dans les épîtres pastorales, quand il est dit « imposez les mains tout d'un coup », n'imposez les mains à personne trop vite. Eh bien, c'est un accent. C'est là qu'ils ont des croyants depuis au moins 10 ans. Ils ont donc plus de choses à faire. Mais parfois, il faut travailler avec ce que l'on a et simplement aider du mieux que l'on peut. Nourrissez-le comme vous le pouvez, mais Paul continue d'être chassé des villes. Alors, il fait ce qu'il peut. Faire confiance à ce que Dieu fait. Vous le voyez également dans Actes chapitre 8, la puissance de l'Esprit. Eh bien, de quoi parle l'autonomisation de l'Esprit dans le livre des Actes? Actes chapitre 1 au verset 8, l'Esprit viendra sur vous et vous en serez témoins. L'autonomisation de l'Esprit avait pour but le témoignage. Et cela arrive à tous les croyants. Dans Actes chapitre 2, dit-il à la fin de son sermon en 2, 39, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Mais vous arrivez au chapitre 8 d'Actes. Or, le peuple juif espérait que la restauration d'Israël, que Dieu déverse son esprit sur son peuple. Il ne s'attendait pas à ce que l'esprit soit répandu sur les Samaritains. Mais lorsque les Samaritains ont reçu le message concernant Jésus, les Jérusalemites se sont dit, « Eh bien, nous devons vérifier cela. Philippe était plus biculturel. Il était allé de l'avant et il avait de toute façon dû quitter Jérusalem. Et Pierre et Jean y sont allés et ils ont vu que c'était un dieu. Et ils imposèrent les mains aux Samaritains afin que les Samaritains reçoivent l'Esprit. Eh bien, à quoi ça sert? Rappelez-vous pourquoi l'Esprit nous est donné. Bien sûr, Dieu nous donne l'Esprit pour plus d'une raison. Mais dans les Actes, l'accent principal est que nous sommes habilités par l'Esprit à être des témoins. Les Samaritains n'étaient plus seulement des objets de mission. Les Samaritains sont devenus partenaires dans la mission. Et parfois, dans le passé, nous avons eu des missionnaires qui allaient dans des endroits, ils fondaient des églises et ensuite ils dirigeaient des églises pendant 100 ans. Mais ce n'était pas le modèle que nous avons dans le livre des Actes. C'est formidable d'aller dans un endroit et de fonder des églises. Mais une fois que vous avez des croyants atteignant un certain niveau de maturité, alors ils deviennent des partenaires. Maintenant, vous pouvez avoir des partenaires plus expérimentés, et, espérons-le, les gens admirent les partenaires plus expérimentés. De toute évidence, les gens se tournaient vers l'Église de Jérusalem pour son leadership à bien des égards. Mais nous devons aussi reconnaître que Dieu donne l'Esprit à tout son peuple. Nous devenons tous frères et sœurs. Et oui, les gens font des erreurs, mais nous devons être prêts à faire confiance au travail de l'Esprit chez nos frères et sœurs et à écouter les gens qui ont des perspectives culturelles différentes. Ils sont peut-être les personnes idéales pour accéder à leur propre culture. Mais bien sûr, nous voulons écouter ceux qui vivent des expériences particulières. C'est ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. Logistique plus loin, le cinquième point, les personnes disposant de ressources économiques. Maintenant, si vous étiez dans mon cours sur Matthieu, vous m'avez entendu dire une grande partie de ce que Jésus a dit à propos des possessions. Et Luc est encore plus fort sur ce point, sur le partage des biens avec les pauvres. Nous en parlerons davantage dans le chapitre 2 des Actes. Mais cela ne veut pas dire que nous laissons de côté les personnes qui disposent de ressources économiques. Nous avons tous des cadeaux différents à apporter et les personnes disposant de ressources économiques ont un cadeau à apporter. Vous voyez que dans Luc chapitre 8 au verset 3, il y avait des femmes voyageant avec les disciples, voyageant avec Jésus et les disciples qui le servaient de leurs propres ressources. C'étaient des femmes assez aisées et elles contribuaient à subvenir aux besoins de la mission. Personne ne s'enrichissait grâce à cela. Personne ne vivait richement, mais ils avaient à manger. Actes chapitre 18, verset 7, lorsqu'un don est reçu de l'église de Macédoine, Paul est reconnaissant de l'avoir et il peut se consacrer plus pleinement en termes de temps au ministère de la parole. Nous avons aussi des personnes ayant des ressources pédagogiques. Nous le voyons avec Crispus, qui était dirigeant de la synagogue en 1808. Il mérite d'être mentionné. Il devient croyant. Eh bien, il a déjà une certaine expérience. Il sait déjà certaines choses qui peuvent être utiles. Cela ne veut pas dire qu'il est aussi mûr dans le Seigneur, peut-être que quelqu'un d'autre, mais la plupart des gens de Corinthe étaient de nouveaux croyants à ce stade. Tous sauf Paul et probablement Aquila et Priscilla. Mais Apollo est un croyant relativement nouveau. Il faut qu'on lui explique des choses, certaines choses qu'il ne comprend pas, mais il est tellement équipé en Torah qu'une fois qu'il l'a comprise, il est capable de parler avec éloquence dans ses cercles d'influence et dans des cercles qui écouteraient le genre de choses. Des arguments qu'il a pu présenter. Il y a donc des gens qui disposent de ressources pédagogiques, des gens dont le parcours les équipe de manière particulière. Que vous ayez une formation de pêcheur ou de pêcheur, vous pourriez devenir un pêcheur de personnes. Si vous êtes berger, vous pourriez devenir berger de personnes, comme dans le cas de Moïse et de David ou des disciples qui étaient pêcheurs. Dieu ne laissera pas toujours certaines choses derrière nous, mais Dieu prendra souvent des choses de notre passé d'une manière que nous n'imaginons pas et les utilisera pour le bien. Ensuite, il y a des choses terribles dans notre passé qui, vous savez, ont simplement besoin d'être réconfortées, mais nous pouvons découvrir que d'autres personnes peuvent être réconfortées grâce au réconfort que nous recevons du Seigneur avec ces choses. Alors, gens qui possèdent certains types de ressources, n'ignorons pas les ressources qui sont dans le corps de Christ. Les gens ont des dons et des compétences. Quand j'étais pasteur, il y avait quelqu'un dans la congrégation qui étudiait l'art dramatique. Nous avons donc mis à profit ses compétences dans la congrégation. Il y avait quelqu'un qui étudiait la guitare et dont nous pouvions utiliser les compétences. Et il y avait déjà un certain nombre de compétences différentes et d'autres souhaitaient développer leurs compétences. Autre point précieux, il est important d'en faire rapport à votre port d'attache ou à vos supporters. Je veux dire, c'est une chose si vous êtes votre port d'attache et que vous exercez votre ministère auprès des gens autour de vous, mais si quelqu'un se retrouve dans une situation interculturelle, que ce soit dans un autre pays ou simplement dans un autre type de situation au sein du même pays. Tendre la main à d'autres groupes de personnes ou déménager dans une partie moins évangélisée du pays, il est important de faire rapport à la base d'origine, aux personnes qui fournissent un soutien, qu'il s'agisse d'un soutien financier ou d'un soutien par la prière. En raison de ma situation actuelle, je n'ai pas besoin de soutien financier. Je n'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas besoin de soutien financier. Le Seigneur l'a fourni de différentes manières dans le passé, mais seulement deux fois j'ai pensé que j'avais essayé de collecter des fonds dans un but précis et je n'avais pas le don de collecter des fonds. Dans les deux cas, cela n'a pas très bien fonctionné. Mais j'ai besoin du soutien de la prière. Je recrute des gens pour prier pour moi. Et j'ai une équipe proche de partisans de la prière, environ 20 personnes. C'est juste le nombre de personnes que j'ai ou proches qui font cela. Cela pourrait être un numéro différent, mais je leur envoie régulièrement des mises à jour de prière. Eh bien, en tout cas, un autre problème logistique, des excuses juridiques ou des excuses publicitaires. Parfois, les gens dénaturent les chrétiens, ils dénaturent Jésus et ils dénaturent ce qu'est l'Évangile. Eh bien, de quoi parle Actes 24 à 26? Paul a été faussement accusé et vous avez toute une longue section d'excuses. Cela nous suggère que l'apologétique est une chose importante à faire. Et si nous suivons l'exemple de Luc, alors nous serons également concernés. Je veux dire, tu ne peux pas réfuter toutes les rumeurs. On ne peut pas satisfaire le scepticisme de tout le monde. Paul raconte comment il a été l'objet de calomnies. Certaines personnes le respectaient. Certaines personnes lui ont manqué de respect. Il devait vivre avec les deux. Mais les excuses juridiques et publicitaires, dans la mesure du possible, exposent les gens à la vérité. S'il s'agissait de fausses accusations dans l'Église primitive, il disait que les chrétiens étaient coupables d'inceste et de cannibalisme parce que c'était probablement, surtout au IIe siècle, que les chrétiens disaient « Je t'aime, mon frère. Je t'aime ma sœur. » Ah, l'inceste. Ou bien les chrétiens disent qu'ils mangent le corps et le sang du Seigneur. Ah, le cannibalisme. Eh bien, il a été utile que Dieu suscite des apologistes pour dire « Non, vous comprenez complètement mal cela. » Et ces rumeurs ont complètement déformé la vérité. Eh bien, vous n'allez pas convaincre tout le monde, mais il est important de faire prendre conscience aux gens de la vérité afin qu'au moins certaines personnes puissent être convaincues. Eh bien, autre problème de logistique, ne soyez pas naïfs. Des problèmes viendront. Vous voyez cela dans le livre des Actes, la persécution, la division interne, et ainsi de suite. Donc, toute la logistique, c'est bien, mais tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes. Et pardonnez mes dessins animés. C'est juste quelque chose que j'utilise parfois lorsque j'enseigne. Donc, avec cela, nous nous préparons à passer au chapitre 1 des Actes. Je souhaite donner quelques informations préliminaires sur le chapitre 1 des Actes, car je souhaite retracer le thème des Actes 1 et 2 ensemble. Et ce sera la prochaine section. Mais permettez-moi d'abord de donner quelques informations préliminaires sur le chapitre 1 des Actes. Il est courant d'avoir une récapitulation. Lorsque vous avez un ouvrage en deux volumes ou un ouvrage en plusieurs volumes, un volume ultérieur pourrait récapituler la fin du volume précédent. Et c'est ce que vous avez avec Luc 24. Une grande partie de cela est récapitulée de manière résumée et plus brève, au début du chapitre 1 des Actes. Et il y reprend certains points avec plus de détails, points que Luc veut particulièrement souligner. N'oubliez pas que les historiens avaient la liberté de réorganiser les choses. Ils avaient la liberté de paraphraser. La différence dans la formulation était que, parfois, il s'agissait d'un oubli accidentel, mais généralement, ce n'est pas un oubli accidentel, certainement pas dans quelque chose d'aussi bien conçu que Luc Acte. Les choses sont formulées d'une manière légèrement différente dans le chapitre 1 des Actes, mais cela communique le même message essentiel. Acte, chapitre 1, verset 1, est dédié à Théophile. C'est en fait plus clair dans Luc chapitre 1, verset 3, le premier volume. Mais dans le deuxième tome, il le dédie éventuellement à un sponsor. Théophile pourrait être son sponsor, il soutient la diffusion du livre. Ou parfois, il serait simplement dédié à une personne éminente dont vous souhaitiez attirer l'attention. Ainsi, la personne faisait circuler l'œuvre et parrainait peut-être la réalisation de copies ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas, il est clair que Théophile est quelqu'un que Luc connaît. Et il sait que Théophile est aussi un croyant, mais il est un excellent Théophile. Il jouit apparemment d'un statut social très élevé, ce qui était très important aux yeux du monde romain. Et les chrétiens étaient censés être capables de surmonter les différences de caste et de classe, mais il pouvait toujours apprécier que lorsque quelqu'un appartient à une classe sociale moins atteinte, mais plus élevée, nous puissions attirer davantage l'attention des gens et être capables de faire circuler les choses. Dans Actes chapitre 1, versets 2 et 3, il y a des exemples de preuves. Il parle de Jésus présentant la preuve de sa résurrection. Certains exemples de preuves sont répertoriés au chapitre 24 de Luc où il se présente vivant aux disciples, veut qu'ils le touchent, mange de la nourriture devant eux, et ainsi de suite. C'est pourquoi au verset 4 du premier acte, il est dit qu'ils mangèrent ensemble. Pourquoi est-ce important? Parce que dans de nombreuses traditions juives, un ange ne pouvait pas véritablement manger de la nourriture humaine. Cela met donc l'accent sur sa physicalité, la physicalité de la résurrection. Quelques informations sur la réunion de prière dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Eh bien, cela fait environ une semaine à 10 jours entre la résurrection et la Pentecôte. La Pentecôte était, je suis désolé, non, pas entre la résurrection et la Pentecôte, entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte. C'était environ 50 jours après la résurrection. Ainsi, pendant une semaine à 10 jours, ils prient ensemble et attendent ce que Dieu va faire. Ils ne savaient pas combien de temps cela prendrait. Au verset 12, il est question du mont des Oliviers ou du mont des Oliviers, qui apparaît également dans les évangiles. C'est l'endroit où Jésus monte. Mais selon Zacharie 14.4, c'était aussi le lieu de la venue attendue du Messie. Ainsi, quand il est dit, vous le verrez revenir comme vous l'avez vu partir. Eh bien, même en termes d'emplacement, cela peut être vrai. C'est à environ 800 mètres à l'est du temple et à plusieurs centaines de pieds au-dessus. C'est proche du voyage d'un jour de sabbat, comme cela est mentionné ici. Le trajet d'un jour de sabbat était d'environ 2000 coudées, une coudée étant à peu près la longueur entre le coude et le doigt le plus long. Bien que cela varie d'une personne à l'autre, il s'agit d'une norme approximative. Le chapitre 1 et le verset 13 parlent de la chambre haute. Eh bien, en ce qui concerne une chambre haute pouvant accueillir un grand nombre de personnes, cela ne pourrait être que dans la ville haute, la partie la plus riche de Jérusalem. La majeure partie de la ville se trouvait sous le vent des égouts, la ville basse de Jérusalem. Mais les riches disposaient de logements plus spacieux. Or, de nombreuses chambres hautes ressemblaient un peu à des greniers, mais il existe des textes juifs qui rapportent que tous les sages se rassemblaient dans une chambre haute. Ainsi, certaines maisons pouvaient avoir des chambres supérieures très spacieuses. Le 12, pourquoi parle-t-on du 12? Le 12 était le nombre des tribus d'Israël. Les manuscrits de la Mer Morte nous montrent qu'un mouvement de renouveau juif pourrait s'en servir lorsqu'il réfléchirait à la restauration des 12 tribus. Ils auraient 12 dirigeants qui seraient des dirigeants en Israël lorsque Dieu restaurerait son peuple. Pour les 12 ici, les noms ne sont pas toujours les mêmes que dans certaines autres listes. Les variations ne sont pas majeures, mais nous avons quelques variations et parfois plus d'un nom, même dans la même liste pour la personne. Eh bien, il était très courant que les gens aient plusieurs noms d'identification, l'un ou les deux pouvant être utilisés pour la personne. Et si vous aviez un nom très commun comme Simon, alors vous devriez presque utiliser un autre nom avec Simon-Pierre, Simon le Zélote ou Cananéen si vous voulez utiliser la langue araméenne pour le fanatique. Pareil avec Judas, Judas Iscariote, bien qu'il ne soit pas là évidemment, et un autre Judas ou deux Jacques différents parmi les disciples. Je veux dire, c'était tous des noms très courants, tout comme Marie était le nom féminin le plus courant en Judée et en Galilée. Il est intéressant de voir que les noms les plus courants dans ces passages sont en réalité les noms les plus courants du lieu et de la période qu'ils décrivent, et non les noms communs d'ailleurs dans l'Empire. Acte 1.14. Dans la culture au sens large, le rôle des femmes est généralement minimisé, mais ici, la participation égale des femmes est remarquable. Le langage de prière était parfois utilisé pour une maison de prière en dehors de la Judée, mais Luc utilisait généralement la synagogue pour cela. Cela signifie simplement qu'ils priaient ensemble. Et dans les versets 15 à 26, et je vais juste aborder ce contexte très brièvement, mais pour remplacer un apôtre apostat, ils en avaient 120. Maintenant, dans les manuscrits de la Mer Morte, ils avaient un groupe de dirigeants qui comprenait 12 fonctionnaires spéciaux. Ils devaient montrer qu'ils étaient le véritable reste d'Israël. 120 n'est pas exactement 12, mais on dirait que c'est lié à ça. Il existait des traditions juives de date incertaine selon lesquelles 120 anciens auraient été les premiers à adopter la loi à l'époque d'Esdras. Donc ils le sont déjà, enfin, on ne sait pas si c'était déjà le cas, mais à une date incertaine, il y avait une tradition de dirigeants, 120 dirigeants en Israël. De plus, les manuscrits de la Mer Morte exigent un prêtre pour 10 hommes. Donc, si vous en avez 120, eh bien, cela aurait du sens si vous avez 12 apôtres. Mais ce que veut dire Luc en mentionnant les 120, c'est peut-être simplement que la chambre haute était très remplie, du moins lorsque tout le monde était réuni. Et de toute façon, nous ne savons pas si tout le monde était là en même temps. Mais au verset 20, Pierre utilise une technique d'interprétation juive courante que les rabbins juifs appelleront plus tard Kol Vomer, à plus forte raison. Il utilise cela pour traiter des psaumes de la souffrance des justes. Si cela était vrai pour les justes qui souffrent en général, combien plus cela doit-il être vrai pour Jésus? Le psaume 69, verset 25, et le psaume 109, verset 8, parlent tous deux d'accusateurs éminents qui font souffrir les justes. Et puis, au verset 23 à 26, nous avons le tirage au sort. Les lots étaient souvent utilisés pour des tâches spéciales. Vous avez cela dans le monde grec et dans le monde romain, même pour de nombreux postes ou missions politiques auxquelles les gouverneurs se rendraient. Vous l'avez dans l'Ancien Testament pour des tâches spéciales dans une chronique 24 et 25 et ainsi de suite. Vous l'avez dans les manuscrits de la Mer Morte. Vous l'avez chez les rabbins. Vous l'avez mentionné dans Joseph, où en fait il tirait au sort pour voir qui allait être tué en premier. Joseph a survécu jusqu'à la fin. C'était lui qui détenait les lots. Mais en tout cas, il était également utilisé comme forme de divination dans les cercles grecs. Mais il a déjà été utilisé une fois dans Luc Acte. Il est utilisé au début ici dans les Actes. Il est utilisé au début de l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, il est utilisé pour choisir un prêtre qui entrera et offrira l'encens. Et là, c'est Zacharie. Eh bien, il est clair que Dieu était responsable de tout cela. Et je pense que nous pouvons donc supposer que nous pouvons être sûrs que Dieu est également responsable de tout cela. Eh bien, remarquez que certaines personnes ont des noms doubles. Dans le cas de Joseph Barsabba, c'est un triple nom lorsqu'ils essaient de choisir parmi ces deux-là et ils disent, eh bien, ceux-ci répondent à toutes les qualifications. Tirons au sort pour voir lequel le Seigneur veut remplir cette fonction. Donc les noms doubles, les noms triples étaient en fait assez courants. Et surtout lorsque des noms particuliers comme Joseph étaient si courants qu'ils nécessitaient une certaine qualification. Mais lors de la prochaine session, nous allons examiner les chapitres 1 et 2 des Actes et tracer un thème qui les traverse. Et c'est le thème du pouvoir pour le témoignage. Il s'agit du docteur Craig Kinner dans son enseignement sur le livre des Actes. Il s'agit de la session 6, évangélisation et introduction aux Actes.